France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Deux grandes villes françaises sont sur un bateau. Trois candidats dans chacune d'entre elles. Dimanche, quatre hommes et femmes vont tomber à l'eau. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, peut-être les présidentielles de 2027. Nous avons mis Marseille et Paris dans le téléphone sonne ce soir. Deux laboratoires, peut-être, de ce que nous verrons dans à peine plus d'un an à l'échelle nationale. Parce que toutes les deux nous offrent une sorte de répétition générale des tempêtes de cerveau politiques qui vont façonner la présidentielle à gauche, entre le PS et les Insoumis. Ça, c'est Paris, avec Sofia Chikirou qui reste dans la course et qui a donc relancer la possibilité d'une victoire de Rachida Dati. À Marseille, c'est la droite qui voit double avec l'ALR Martine Vassal qui reste, qui n'a pas voulu laisser du champ au RN Franck Alizio. À chaque fois, pas de copier-coller. Paris n'implique pas qu'une messe soit dite, pas plus que Marseille, mais derrière les enjeux municipaux émergent les grandes questions qui vont structurer la présidentielle. L'union des gauches, l'union des droites, la densité aussi du ralliement des électeurs quand leur champion n'est plus sur la liste. Peut-être même d'ailleurs, et nos invités nous aideront à répondre à cette question, que si la gauche perd Paris à cause d'un éparpillement des voix, ce sera une sorte de casus belli pour la suite qui efface en un scrutin toutes les fusions qui, pour certaines, se sont déroulées plutôt sans heurts. Entre RN et LR, Marseille en est l'un des symptômes, pas d'alliance. Paris, elle, montre justement l'esquisse d'une fusion à droite, avec cette singularité, puisque le RN n'existe pas à Paris, c'est Reconquête qui prend cette place, ça rend peut-être les choses un peu différentes. Les deux villes, en tout cas, mettent les parti devant la même équation. Comment l'emporter sans rassembler? Comment conserver aussi les électeurs modérés dans chacun des camps? Nous avons jusqu'à 20h pour y réfléchir et c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et voici Jean-Louis qui est à Marseille justement. Bonsoir Jean-Louis, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Jean-Louis.
Ben, je précise déjà que je suis marseillais depuis toujours.
Ok.
Et que j'ai voté dimanche dernier.
Ok.
Toujours. Alors mon ressenti. Une situation quasi habituelle où les candidats souhaitent, à mon sens, avant tout être élus, et qui semble être une finalité pour eux, alors qu'au contraire, selon moi, tout commence à ce moment-là. En résumé, une impression de netteté particulièrement floue, si vous acceptez cette expression. Alors, je résume un petit peu la situation, vous l'avez faite, mais je vais quand même un petit peu la résumer. Payant le maire en place conserve sa liste inchangée, montrant ne pas vouloir de compromission avec LFI, mais selon moi, intérieurement, souhaitant très fort un report des voix LFI en sa faveur, sachant que le candidat LFI s'est retiré sans consigne de vote. Idem pour Alizio, le candidat RN, qui compte garder son électorat, ne fait pas d'appel aux électeurs de la droite dite classique, mais espère lui aussi très fort, intérieurement, un vote utile de cette droite. Cette droite représentée par Mme Vassal, qui se maintient, car elle ne peut pas s'allier au RN sous peine de disparaître, sachant qu'elle a cité dans sa campagne la devise de Pétain, travail, famille et patrie, volontairement ou par erreur. Donc je dirais en résumé, c'est quasiment du pagnol, tous portent beau, mais cela sonne faux.
Eh ben, écoutez, merci d'avoir cité Pagnol. En tout cas, Jean-Louis, merci beaucoup, qui résume plutôt bien, effectivement, la situation marseillaise. Puis on va voir jusqu'à quel point on en tire des conclusions qui sont plus larges pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Autour de la table, il y a Sophie Dravinel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique indépendante. Il y a Ludovic Vigogne. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à la Tribune dimanche. Et puis il y a aussi Laurence Perron et Victoria Coussa. Je vous salue toutes les deux.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. Votre avis à tous, peut-être Sophie Dravinel, pour commencer, il a raison, notre ami Jean-Louis, est-ce qu'on n'est pas, au fond, à Marseille comme à Paris, mais peut-être aussi ailleurs, où chacun est conforté à la fois dans ses choix, mais aussi dans ses contradictions. C'est-à-dire dans les choix, effectivement, qui sont des choix clairs. LR ne veut pas d'alliance, LFI veut jouer sa carte, et puis dans les contradictions entre le PS et LFI, la droite entre LR et Horizon, on a l'impression que tout est résumé dans cette grosse ville-là.
Absolument, et moi je dirais, en plus, pour compléter ce que vous venez de dire, le flou qui entoure aujourd'hui les frontières des partis. Parce que, évidemment, et Louis l'a très bien dit, je crois que c'était Louis,
Jean-Louis,
notre auditeur, pardon Jean-Louis, les frontières sont évidemment poreuses et de plus en plus poreuses. Parce que on est en route vers 2027 dans une hésitation entre une recomposition entre la gauche et la droite et un éclatement global des gauches et des droites. Mmh. Et là, on le voit très bien à Marseille avec Benoît Payan, qui espère aussi bien sur sa droite, parce que son ancrage chrétien de justice sociale peut aussi toucher tout un électorat de Martine Vassal qui ne voudra pas, justement, en raison de cet ancrage que j'appelle globalement du christianisme social, le radicalisme du Rassemblement National. Et il sait qu'il aura aussi sur sa droite, contrairement à Paris, ce désistement de Sébastien Delogu qui va laisser libre cours à une alliance très pragmatique, qui est finalement celle du patron du PS, Olivier Faure.
Au fond, on a l'impression, Ludovic Vigogne, je vous ai vu, Victoria, ne vous inquiétez pas qu'il lève le doigt, je trouve ça formidable de le faire comme ça. On a l'impression que, au fond, chacun en tout cas, a le sentiment d'être conforté dans ses propres choix, au fond. Et c'est peut-être pour ça aussi que chacun est dans ses bottes. LR se dit, mais nous, on n'a pas besoin de cette alliance-là. Et d'ailleurs, il n'est pas question de la faire. LFI, de son côté, et dans un autre registre, peut-être plus parisien, se dit, mais nous, confortés aussi dans notre stratégie-là. Donc, au fond, on se retrouve dans une situation où, statu quo, en quelque sorte, non ?
Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que avant cette élection, beaucoup imaginaient qu'on verrait dans certaines villes l'union des droites à l'œuvre. Effectivement, on la voit pas, et à part quelques exceptions très rares, qui se comptent sur les doigts d'une main, mais la frontière reste très étanche.
Il y a une exception à Reims, pour la citer, mais qui est un cas très particulier, effectivement.
Bourg-en-Bresse.
Avec un Reconquête, et Vicomte Le Robert, je crois, quelque chose comme ça, en Seine-et-Marne, où là, le candidat LR a fait alliance avec le RN et a été tout de suite exclu par les Républicains. Donc, du côté des Républicains, la ligne est assez claire, à part ce qui s'est passé un peu aujourd'hui à Nice, mais peut-être qu'on y reviendra après les propos de Bruno Retailleau ce matin. C'est assez clair, il n'y a pas d'alliance avec le Rassemblement National, la frontière reste extrêmement étanche, contrairement à ce que beaucoup disaient, et on a même vu au soir du premier tour, Bruno Retailleau désigner clairement le Rassemblement National comme l'adversaire, donc c'est quelque chose de très clair, et qui va durer comme ça jusqu'en 2027, globalement.
Mais jusqu'en 2027, pardon, après premier tour, non, c'est après que les digues sautent.
C'est après le premier tour, effectivement, que sans doute les Républicains sont un... là, il y aura sans doute des choix très différents au sein du parti, et peut-être même un peu en amont, ou selon la configuration, si Édouard Philippe est le candidat unique de la droite et du centre, il y a sans doute certains LR, je pense à François-Xavier Bellamy, par exemple, qui ne le soutiendront pas, et qui feront peut-être que François-Xavier Bellamy, le numéro 2 du parti, qui feront peut-être un autre choix. Vous évoquiez la France Insoumise, là, c'est aussi, on a vu à cette occasion tout le sens tactique de Jean-Luc Mélenchon, qui a su piéger magnifiquement le Parti Socialiste et faire en sorte que les socialistes dépendent de lui dans un nombre très important de villes et se trouvent pris en contradiction entre leurs déclarations et leurs actes.
Victoria d'abord et puis Laurence après. Victoria.
Oui, ce que je tenais simplement à souligner, c'est que certains font une lecture très locale du scrutin des élections municipales, et c'est vrai finalement dans deux tiers des communes qui n'avaient qu'une liste, notamment dans les plus petites communes. Mais il est vrai aussi que le terme laboratoire convient parfaitement aux deux villes, Paris et Marseille, puisque ça cristallise un peu toutes les tensions entre les partis politiques. Et que ce soit à la fois Benoît Payan pour Marseille, à la fois Emmanuel Grégoire, les deux jouent l'équilibriste. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ne veulent pas s'allier avec deux insoumis qui, d'ailleurs, font figure de repoussoir, puisque ce sont deux insoumis lignards, comme on dit, très proches de la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Sophia Chikirou, qui est une très très proche du leader insoumis, et il y a Sébastien Delogu qui a été chauffeur, il me semble, du leader. Donc ce rôle d'équilibriste est compliqué, puisqu'ils veulent les voix des insoumis tout en refusant ce projet d'alliance, et donnent effectivement, et c'est ce qu'on entend chez Jean-Louis, donne ce sentiment qu'il y a des magouilles entre guillemets, des tractations pas très glorieuses pour la politique, et qui peuvent nuire aussi à cette envie d'aller voter.
Sauf que le sentiment qu'on a, Laurence Perron, jusque-là, c'est que c'est la stratégie LFI qui a fonctionné, et c'est le PS qui s'est pris les pieds dans le tapis, puisqu'il y avait une ligne claire de certains au PS, François Hollande qu'on a entendu, Raphaël Glucksmann qui est place publique, et d'autres aussi, qui disaient alliance pas question. Ailleurs, il y en a eu plein, même pas alliance d'ailleurs, fusion, il y a une vraie différence entre fusion
de fusion technique, en réalité, on parle de fusion. Hein. C'est une coalition, c'est un accord qui dit pas son nom. Et de la même manière, le PS, aujourd'hui, nous explique qu'il n'y a pas d'accord national. Quand il y a 9 villes de cette importance, Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand, Nantes, Avignon, Grenoble, Besançon, où les listes ont fusionné, on est quasiment dans un accord national. Donc il y a une forme d'hypocrisie de la part des dirigeants du PS, c'est-à-dire aujourd'hui, on a été obligé, afin, alors ils reprennent ce terme de front républicain pour s'opposer à la droite, on a été obligé de s'allier avec, en gros, le diable et les filles, tout en expliquant par exemple qu'à Toulouse, Piquemal n'est pas, François Piquemal, n'est pas exactement un proche de Mélenchon, ce qui est assez faux, parce que de toute façon, il a été complètement formé. Tous les jeunes députés de LFI qui ont été envoyés au front de ces municipales sont des proches de Mélenchon, formés par Mélenchon. Donc le PS se raconte une histoire, précisément, et c'était le thème de l'émission, en vue de la présidentielle. Et il y aura sans doute, à la fin du second tour, un règlement, à mon avis, un peu à hoquet corral au sein du PS, entre la ligne droitarde, entre guillemets, portée par François Hollande, etc., et la liste portée par des gens un peu comme Arthur Delaporte, qui, eux, sont plutôt pour des alliances, en tout cas, quand c'est nécessaire.
Puisqu'on est pile dessus, je voudrais qu'on écoute Mathieu, qui prend la suite de la conversation. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir, Fabienne.
On vous écoute.
Je vous appelais à propos de Marseille, parce que moi, j'ai été très choqué du fait que le maire sortant ne veuille pas s'allier à LFI. LFI, je l'ai trouvé très responsable, du coup, en se retirant. Mais en prenant le risque de perdre ses voix, il risque de faire passer le FN. Et franchement, le FN à Marseille, ça mérite le bûcher.
Merci Mathieu pour votre appel. Ce que je trouve intéressant, Sophie de Ravinel, c'est que au fond, c'est évidemment une bataille électorale, c'est aussi une bataille de récit, en fait. Et on a l'impression que le récit, j'ai presque envie de dire plus le récit mélenchoniste que le récit LFI, a fonctionné. Peut-être que le récit RN marche aussi, c'est vraiment une histoire de récit.
Oui, absolument, parce que en vrai, en réalité, sur leur terrain, ni le Rassemblement National, ni LFI n'ont vraiment...
C'est pas un carton plein,
non, mais non, pas du tout. Ils n'ont pas pété les scores, si je peux me permettre. Ils ont vraiment... on le voit pour le Rassemblement National, ils ont passé 325 listes en 2020 à 482 en 2026, plus 4300 candidatures. Ils passeront sans doute pas plus de la vingtaine de villes par rapport à la dernière fois où ils étaient 13. Donc en fait, rien que pour le Rassemblement National, voilà. Et pour les Insoumis, c'est pareil. Ouais. Il y a des villes comme Évry, dont on ne parle pas, qui
oui,
étaient...
ils avaient beaucoup d'espoir.
Mais oui, ils avaient beaucoup d'espoir. Le centriste a été réélu au premier tour, des proches de Jean-Luc Mélenchon à côté de Montpellier qui ont été éliminés dès le premier tour aussi, et d'autres. Donc, en revanche, et par exemple à Roubaix et Saint-Denis, qu'il ne faut pas occulter, Roubaix, il y a eu 37% de participation, et je pense que le récit à Roubaix, comme d'ailleurs à Marseille, s'incarne dans les choix qui ont été faits des candidats, qui sont beaucoup issus de la diversité. Et ça, c'est une force de Jean-Luc Mélenchon, qui a joué la campagne présidentielle pendant toute sa campagne, avec des choix de thèmes extrêmement puissants, extrêmement mobilisateur pour le préparer, lui, à entrer sur ce terrain. Et là où il a réussi quand même, par rapport à Renaissance par exemple, c'est vraiment à introduire ses candidats dans les villes et à les faire élire.
Et pour, pardon, allez-y Victoria, pardonnez-moi.
Très rapidement, et à mobiliser un électorat abstentionniste sur lequel il compte s'appuyer en vue de la présidentielle de 2020.
Et le cas de Saint-Denis est vraiment intéressant parce que le candidat est un candidat qui vient au départ du Parti communiste, qui a été formé par les communistes.
Bali Bagayoko.
Voilà, et qui est quelqu'un qui a un niveau exceptionnellement conscientisé. C'est quelqu'un dont on va sans doute entendre parler au-delà même de la ville de Saint-Denis. C'est-à-dire que le travail qu'il a fait à Saint-Denis est un travail exceptionnel. Et il faut dire aussi, pour reparler du PS qui tenait la ville depuis seulement 2020, que c'est aussi un camouflet. Mm-hmm. Parce que Mathieu Hanotin a gagné cette ville et il l'a perdue. Bali Bagayoko a gagné la ville aussi, mais il a bénéficié d'un très très fort désaveu du maire sortant.
Pour revenir là-dessus, Ludwig Vigogne, et peut-être sur le récit dont on parlait à l'instant avec Sophie de Ravinel, la réalité aussi, effectivement, c'est que LFI, je caricature un peu, mais ne sort pas des centres-villes, le RN ne rentre pas dans les centres-villes, donc ce qu'on voit aussi, malgré tout, c'est que les talons d'Achille de chacun sont aussi respectés, si j'ose dire, dans ce premier tour d'élection municipale.
Oui, et d'ailleurs, Jordan Bardella, auprès de quelques proches, l'a reconnu. Ça reste très compliqué pour son parti dans les grandes villes. Il reste un vrai plafond de verre, sauf à Marseille, à Nice avec Éric Ciotti, mais c'est un cas particulier. Mais il y a quand même dans la plupart, Toulon, mais il y a quand même dans beaucoup de métropoles un seuil que le RN n'arrive pas à passer. Après, restons quand même calmes, il y a un deuxième tour à cette élection. Ouais. Donc là, on tire des conclusions qui peuvent être aussi un peu amendées, voire démenties. Dimanche prochain, ça va être très intéressant de voir comment l'électorat de gauche modéré réagit dans une ville comme Toulouse, de voir si c'est la stratégie choisie par Emmanuel Grégoire à Paris de ne pas faire alliance avec LFI, ou bien celle de Johanna Roland à Nantes, la numéro 2 du PS, qui elle a fait alliance avec LFI, qui réussit. Il y aura des réponses dimanche soir qui aussi vont colorer la lecture qu'on va avoir de ce scrutin et les enseignements qu'on va pouvoir tirer en vue de la présidentielle de 2027.
On va à Paris, et puis je vous ai vu, Sophie Dravinel, aussi. À Paris d'abord avec vous, Michel, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir France Inter, merci pour vos émissions. Ma question concernait la candidature de Madame Dati, qui est donc l'objet de pas mal de procédures judiciaires, dont certaines assez lourdes. Et je voulais savoir s'il y avait une règle au cas où elle serait inéligible pour la désignation du maire. Est-ce que c'est le premier adjoint ou est-ce que ça sera... Bref, est-ce qu'on vote, j'ai l'impression, un peu à l'aveugle. Et j'ai jamais entendu de réponse de sa part à ce sujet.
Merci beaucoup, Michel. Qui veut répondre, Sophie Dravinel?
Alors, j'ai juste, moi, un indice, parce que je n'ai pas une réponse précise et judiciaire, mais j'ai un indice. J'ai posé la question à plusieurs des maires qui sont sur ces listes. Je lui ai dit, alors, comment ça se passe si jamais, en septembre prochain, elle est écartée?
Ce ne sera pas en septembre, puisque le procès a lieu en septembre.
Absolument.
Et donc, le jugement a lieu au début de l'année 2027.
Absolument.
Voire au printemps.
Je dis septembre, parce que ce sera le moment symbolique, où on saura, où on aura une idée, où on pourra avoir des pistes. Et eux-mêmes ne savaient pas me répondre ou ne souhaitaient pas me répondre.
Alors, il y a un point quand même qu'on peut préciser à notre auditeur, c'est que c'est le conseil municipal qui se réunira, si Rachida Dati était inéligible, se réunira et élira un nouveau maire. Ce ne sera pas le premier adjoint qui deviendra automatiquement maire. Il y aura un vote du conseil municipal.
Conseil de Paris. On a sur WhatsApp François qui dit ceci, mais enfin, quand allez-vous admettre que les municipales, ce sont des histoires locales avec des acteurs locaux et des villes qui ont une histoire différente, des bilans municipaux différents, des projets différents où les acteurs, quelles que soient leurs étiquettes, ont leur autonomie et ne sont pas que des pions dirigés par les partis. Il a raison, François.
Non, c'est
mais,
bien.
Exactement, mais c'est là que j'allais vous emmener. Quand on regarde, par exemple,
l'histoire.
Et puis surtout, dans un récent sondage Ipsos qui date du 15 mars, quels sont les deux partis qui votent le plus pour des raisons nationales que locales? Le Rassemblement National et la France Insoumise.
Et on voit, par exemple, qu'en 1981, la victoire de François Mitterrand est précédée par une vague, entre guillemets, rose-rouge aux élections municipales. En 65, c'est pareil, juste une montée de l'opposition au pouvoir gaulliste, ça donne mai 68 derrière. Alors, il y a des contre-exemples, bien sûr, mais ça peut dire quelque chose.
Ludovic Guillon est parti pour les contre-exemples.
Les régionales de 2021...
Je parle des élections municipales.
Oui, mais bon, les élections municipales de
2020 sont un contre-exemple, et 2014 aussi.
Et de les élections municipales de 2001, où la gauche gagne Paris et Lyon, un an plus tard, Lionel Jospin n'est pas au second tour. Voilà. Donc il ne faut pas non plus trop extrapoler.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, cet auditeur a raison, dans une grande partie des communes, c'est sûr que nous, on zoome sur toutes celles où il y a tous ces enjeux politiques, d'appareils, etc. Mais c'est vrai que dans une grande partie des communes, il y a effectivement des maires qui, soit n'ont pas d'étiquette, soit ne la montrent pas. On sait par exemple, même Éric Ciotti, qui est soutenu par le RN à Nice, fait une campagne très locale, finalement, où il agite très peu de programmes ou de propositions de l'extrême droite. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des enjeux locaux, mais dans des villes, dans certaines villes, et dans certaines villes dans lesquelles on fait un zoom. Et juste aussi, une dernière chose, on parle beaucoup du RN et de LFI dans ces élections, mais il faut aussi rappeler que ces municipales montrent surtout que les partis de gouvernement, l'EPS et LR, restent majoritaires dans les territoires. En termes de voix, par exemple, 5 millions de voix pour la droite, 5 millions de voix pour la gauche. Et ensuite, pour le RN, c'est moins d'un million. Et pour LFI, c'est 654 000 voix précisément.
Et puisqu'on est là, avant de retourner au standard, LR qui a mangé Horizon ou pas, Sophie Dravinel?
Eh bien justement, ça n'est pas clair du tout. Et là, pour cela, il va falloir attendre le deuxième tour, de voir un peu l'équilibrage global. Une chose est certaine, je rejoins ce que vous disiez sur, moi je dirais plutôt, la gauche et la droite. ou la droite classique ou la gauche classique, contrairement aux extrêmes ou aux partis populistes, comme on veut. Parce que je pense que ce qui est important dans ces élections aussi, c'est la montée des listes divers droite ou divers gauche. Et j'allais dire cette défiance vis-à-vis des partis politiques qui s'est aussi exprimée localement. Et on voit bien que les stratégies données nationalement n'ont pas eu forcément de réponse au niveau local. Alors après, les chefs de parti, je pense à Olivier Faure, parce que je suis un peu spécialiste de la gauche, c'est plutôt, c'était opposé à des unions avec les filles, etc. Et puis en fait, il se fait déborder partout, à Limoges, il se fait déborder à Clermont-Ferrand. Bon, mais
Il se laisse se faire déborder,
tout à fait, parce que ça l'arrange, parce que lui voit la suite. Mais je pense à Strasbourg, par exemple, l'ancienne maire Catherine Trottmann, qui fut maire il y a 25 ans, qui est PS et qui s'allie à Horizon, justement, et qui dit quelque chose de ce qui va se passer par la suite, potentiellement.
Strasbourg, c'est vraiment, on a l'impression qu'on est dans le double exemple, en fait, le symbole du PS qui est coupé en deux, mais le symbole aussi, finalement, d'une droite républicaine qui est coupée en deux à Strasbourg. C'est la définition de tout ça à la fois, non?
Absolument, mais d'une possible recomposition aussi, dont je vous parlais initialement, des partis avec la possibilité d'avoir un gouvernement d'union nationale ou d'Horizon qui reste très fort avec Édouard Philippe, qui a quand même réussi un sacré pari au Havre et qui est sorti assez fort et qui, pour moi, est le plus mieux placé, en tout cas, à l'heure actuelle, parmi ceux du centre-droit.
On s'interroge pour savoir jusqu'à quel point ces municipales sont le laboratoire de 2027, et précisément à Marseille et à Paris, qui sont deux villes emblématiques ce soir dans le Téléphone Sonne.
France Inter, le 18-20. 01 45 24 7000.
Nous sommes avec Ludovic Vigogne, avec Sophie Dravinel, avec Laurence Perron, avec Victoria Coussa et avec vous, Florence, bonsoir. Jean-Baptiste, pardonnez-moi. Florence, je vous ai pas oublié, c'est promis, mais Jean-Baptiste d'abord, qui est à Paris. Pardon, Jean-Baptiste, on vous écoute.
Bonsoir, merci de m'avoir pris. Voilà, moi, j'ai 48 ans et j'ai milité avec la France Insoumise du 10e arrondissement, pour la première fois de ma vie d'ailleurs. Et pas tant d'ailleurs par mélenchonisme, mais plus parce qu'il me semblait que la France Insoumise incarnait un point de stabilité vis-à-vis du glissement fasciste de notre pays. Voilà, enfin, ça c'était mon prologue.
J'entends bien. Allez-y.
Voilà, mais par contre, on a fait une belle campagne en 10e, notre candidate a fait 20% et on est ravis, même si on ne s'attendait pas à gagner, on est content. Maintenant, je suis extrêmement déçu, voire en colère, par l'attitude d'Emmanuel Grégoire, à qui il n'aurait vraiment pas coûté grand-chose d'obtenir ma voix et celle de la plupart de mes camarades s'il avait fait preuve d'un minimum de magnanimité vis-à-vis de Sophia Chikirou. Mmh. En l'occurrence, je pense qu'on risque de prendre Dati comme maire. C'est un drame pour, à mon avis, une majorité de Parisiens. Et en fait, ça sera entièrement sa responsabilité, ou plutôt son irresponsabilité, qui nous a ramenés ici. Voilà.
Merci Jean-Baptiste pour votre appel. Ce que j'entends dans ce que dit Jean-Baptiste, Ludovic Vigogne, c'est que ce qu'on va tester aussi, mais ça aussi c'est du laboratoire 2027, c'est les reports.
Oui.
Est-ce que les reports vont se faire comme chacun l'entend? Quand on entend notre ami Jean-Baptiste, on
se dit serait
que...
bien de lui demander d'ailleurs à Jean-Baptiste. Ben, si vous... Non, il est prêt à voter Emmanuel
Grégoire.
Visiblement
non. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas prêt à faire ça, Jean-Baptiste.
Ah non.
Ben voilà, on avait bien compris.
Après, on verra dimanche soir si c'est Jean-Baptiste ou Emmanuel Grégoire qui ont eu raison. On verra lequel des deux a eu raison de ce choix. Emmanuel Grégoire, il a fait un autre pari. D'abord, il a dit durant toute sa campagne qu'il ne s'allierait pas avec Sophia Chikirou, avec qui les relations sont extrêmement tendues. On l'a dit lors de cette émission, Sophia Chikirou est quand même l'emblème de la France Insoumise. Voilà, c'est une députée vraiment qui est très proche de Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, Emmanuel Grégoire, il veut séduire plutôt l'électorat centriste de Pierre-Yves Bournazel,
Clément Beaune.
Voilà, oui, des personnalités comme Clément Beaune, qui était numéro 3 sur la liste de Pierre-Yves Bournazel. C'est cet électorat-là qu'il va essayer d'aller chercher dans cet entre-deux-tours. Aujourd'hui, l'élection est extrêmement serrée. Sur le papier, Emmanuel Grégoire a 80 000 voix, un peu moins de 80 000 voix de retard sur Rachida Dati. Elle est favorite sur le papier. Après, il y a l'arithmétique, il y a la dynamique. L'arithmétique est favorable à Rachida Dati. La dynamique était favorable au soir du premier tour à Emmanuel Grégoire parce qu'il a fait un très gros score que personne n'attendait, 38%, qu'il était 13 points devant Rachida Dati, qui a été un peu secoué par cette contre-performance dimanche soir. On verra qui l'emporte dimanche.
Ce que ça dit aussi, parce que c'est le cas aussi pour le coup à Paris, vous parliez de la personnalité effectivement de Sophia Chikirou, ce qui changera aussi, et c'est en ça que notre histoire de laboratoire peut avoir du plomb dans l'aile ou pas, c'est qu'à un moment, il il y aura des personnes quand même, et c'est ça qui va changer. Enfin, moi, je déteste la tarte à la crème de la rencontre entre l'homme et un pays, mais enfin, à la fin, on vote quand même pour une personne.
Il y avait déjà ça, puisque de toute façon, dans cette élection où les règles ont été changées, la fameuse loi PLM Paris-Lyon-Marseille, on vote deux fois, nous, à Paris. On vote une première fois pour son maire d'arrondissement, et une deuxième fois pour... Donc,
c'est deux salles, deux ambiances à Paris.
Voilà, donc Sophia Chikirou, c'est 12%, c'est... parce qu'elle porte les valeurs de LFI, mais c'est aussi parce que c'est elle qui les porte.
C'est ça, ouais. Et qui est aussi députée de Paris, par ailleurs, donc ancrée là pour le coup, Sophie Dravinel.
Oui, elle est très ancrée, mais elle a fait le choix aussi d'une campagne très radicalement opposée à celle d'Emmanuel Grégoire, avec des propos extrêmement durs contre beaucoup de personnes dans des médias alternatifs dans lesquels elle était invitée. Elle a eu des on a eu le sentiment qu'elle brûlait les vaisseaux susceptibles et volontairement. De rejoindre des alliés potentiels de gauche, ce qui n'est pas du tout le cas de Sarah Knafaud de l'autre côté, par exemple, pour Paris. Et Sarah Knafaud qui a fait le choix de se désister dans un choix plus prudent. On verra s'il est payant pour l'avenir. En tout cas, on ne lui fera pas payer à elle l'échec éventuel de Rachida Dati, si jamais elle devait échouer.
Et là, pareil, pour éviter de faire des copier-coller trop rapides, Ludovic Vigogne, est-ce qu'on peut imaginer dans une élection municipale où chacun, si je puis dire, est dans son carré, on a effectivement entendu des noms d'oiseaux voler entre LFistes et PS, mais y compris à droite aussi, à bien des égards, parfois d'ailleurs entre LR et Horizon, et aussi évidemment entre LR et l'URN. Est-ce qu'on se dit qu'avant des présidentielles, ça vole aussi haut que ça, ou au contraire, parce qu'on sait qu'à la fin, l'enjeu est autre, on verra de toute façon quelque chose de plus apaisé, ou est-ce qu'au contraire, c'est cette violence-là est aussi un signe de ce qui va se passer d'ici un an et demi?
Ça dépend les cas. Si on prend celui de Paris, on voit bien que Édouard Philippe a géré ce second tour avec un seul objectif qui était celui d'être celui qui aurait permis éventuellement la victoire de la droite en vue de 2027. Édouard Philippe l'a géré comme ça à Paris en forçant, en incitant très fortement Pierre Bournazel à faire alliance avec Rachida Dati, ce dont Pierre Bournazel n'avait pas spontanément envie. Il a aussi, on parlait tout à l'heure de Strasbourg, où le candidat Horizon a rejoint Catherine Trottmann. Hier, Horizon a mis à l'écart Pierre Jakubowicz, cette fameuse tête de liste Horizon, et a apporté son soutien au candidat LR à Strasbourg, Jean-Philippe Véter. Donc, Édouard Philippe a géré vraiment cet entre-deux-tours en ayant en tête la présidentielle de 2027 et l'idée qu'il puisse être celui qui rassemblera la droite et le centre.
Victoria Cousseuil, après Florence qui nous attend là depuis 12 minutes, la pauvre.
Ce qui est sûr, c'est que pour le parti d'Édouard Philippe, pour le parti Horizon, il est très regardé, notamment par les Républicains qui espèrent finalement que le parti se plante, parce que ces municipales, c'est un test aussi pour le parti Horizon qui se revendique être le parti des maires, alors qu'on voit très bien que localement il y a pas mal de maires qui sont en difficulté. Alors, pas Édouard Philippe, d'après le premier tour, mais Christian Estrosi, c'est un exemple à Nice. On sait qu'ils sont attendus au tournant là-dessus, et notamment pour jauger, pour se compter, pour se comparer aussi en vue de la présidentielle.
Et c'est en ça aussi, effectivement, que cette élection est un laboratoire pour savoir qu'est-ce qu'on représente, rien ou beaucoup de choses. Florence, pardon Florence, mais c'est à vous. Vous avez le droit de prendre, vous avez même le droit de prendre du temps. On vous écoute.
D'accord. Je précise que j'ai toujours voté PS, mais le PS s'est droitisé au fur et à mesure, je trouve. François Hollande nous a amené Macron, qui se présentait ni de droite ni de gauche, mais qui vient de plus en plus à droite. Et pour tout cela, le PS a trouvé très très malin de participer au Mélenchon bashing, si je puis dire, notamment en accréditant l'idée que Mélenchon serait antisémite. Ce qui est une fable. Mélenchon est provocateur. Mélenchon a beaucoup de défauts. Mais c'est par exemple toutes les histoires sur Epstein, je suis désolée, mais j'écoute France Culture, France Inter, j'ai entendu l'une et l'autre prononciation, donc par beaucoup d'intervenants.
Après, si je puis me permettre, Florence, ça dépend si on le fait en meeting, si on insiste dessus ou pas, enfin il y a aussi la manière.
Je n'ai jamais pensé que l'un ou l'autre pouvait être antisémite, qu'aucun intervenant. Or, dès que c'est Mélenchon, bon ben voilà, c'est il suffit d'un mot, d'une phrase, et on s'écoute pas le discours tout entier, jamais, ça c'est pas possible. Et c'est quand même dommage. Donc, en fait, pour moi, le PS est vraiment piégé tout seul, dans la mesure où il a participé à tout cela. Il était très content de le faire. Il espérait pouvoir diminuer les parts d'audience, les parts de vote de LFI. Ça n'a pas marché. Et maintenant, il est coincé dans son propre jeu.
Florence,
j'ai une chance immense. J'habite Grenoble, où ça va marcher, j'espère. Que nous n'aurons pas Carignan, mais si j'étais à Marseille ou si j'étais à Paris, ben je serais très triste.
Merci Florence pour votre appel. Enfin, je veux dire, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, mais là-dessus, c'est la grosse question Mélenchon. C'est celle-là, à la fin, au bout du compte, on arrive toujours à cette question-là.
Absolument, c'est la question Mélenchon, et je pense que Florence, vous incarnez parfaitement le succès, si je peux me permettre, en tout cas, prétendu succès de Jean-Luc Mélenchon, et qui passe beaucoup pour être un succès de récit, un succès de communication. Et de fait, les autres ont aussi pris le bâton pour se faire battre. Et une fois de plus, Jean-Luc Mélenchon a récupéré la mise parce qu'il la récupère souvent et il la récupère souvent de façon efficace. Et ceux qui ont essayé de se construire contre lui, voilà. Après, ça ne dit pas du tout de la suite. Je pense que ce que cela dit, pour rejoindre ce que vous nous disiez précédemment sur la polarisation et les risques d'une campagne extrêmement tendue, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a rien perdu de sa verve et de son envie d'y aller, et qui va rendre la situation extrêmement bordélique, si je peux utiliser ce terme, parce que lui-même parle de bordélisation de campagne.
Il en parle comme d'une stratégie, mais...
Voilà, mais de fait, mais qu'il va employer...
Et c'était le sens de ma question suivante.
Voilà. Il y a quand même... Et à la France Insoumise, grâce à Jean-Luc Mélenchon, un corpus idéologique qui tient la route. Alors on dit que ça tient aussi au fait qu'il n'y a pas beaucoup de démocratie interne, mais est-ce qu'on se pose la question avec les LR ?
Alors je ne sais pas s'il tient la route, mais en tout cas, il est solide.
En tout cas, c'est solide. Ils ont un institut de formation et l'Institut La Boétie qui produit effectivement des chercheurs. À Toulouse, par exemple, on s'est rendu compte que dans les milieux très lié à l'aérospatiale, les ingénieurs avaient beaucoup voté LFI.
C'est la même chose à Grenoble.
Oui, et ben pourquoi ? Parce qu'en fait, Mélenchon a travaillé cette question de l'espace et qu'il s'est associé des chercheurs.
Et la polarisation
je ne crois pas que ces gens soient... Mais... Oui, mais c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qu'on attrape uniquement avec, de l'émotion. Ce sont des gens qui réfléchissent. Le vote LFI est un vote réfléchi.
Ils sont beaucoup en défiance du milieu politique.
Mais c'est pareil pour le RN.
Oui.
Mettez-vous au milieu, Ludovic Vigogne. Est-ce qu'on dit... c'est au fond ce qu'on disait tout à l'heure. Le récit, en tout cas, a fonctionné. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière le récit.
Voilà, et je le redis un peu. Il y aura dimanche un deuxième tour. Si François Piquemal, la tête de liste de la France Insoumise à Toulouse, échoue, s'il échoue lourdement face au maire sortant divers droites Jean-Luc Moudenc, on montrera aussi, ça dira aussi les limites de Jean-Luc Mélenchon, de ses troupes. C'est quelqu'un qui ne permet pas forcément de gagner. Alors qu'aujourd'hui, sur le papier, le total gauche est très favorable à François Piquemal. C'est aussi ça qu'on
Toulouse
qu'on
est tout de même une ville qui, de toute façon, vote à gauche, effectivement, à toutes les élections
nationales,
sauf aux élections municipales.
C'est l'anomalie, Toulouse.
C'est quand même l'anomalie. Et si Moudenc est réélu, d'une certaine manière, c'est dans l'ordre des choses.
Oui, enfin, il y a, en 2008, il y a eu un maire socialiste, et Pierre Cohen, il a fait certes un seul mandat, mais malgré tout, on a bien vu que la gauche avait encore progressé ces dernières années.
Et à l'époque, les filles n'existaient pas.
Si, absolument.
Allez-y, Victor. Je le dis au passage, mais le 13-14 est à Toulouse sur France Inter demain, donc du coup, cette conversation pourra se prolonger bien longuement. Victoria Koussa.
Et si Jean-Luc Mélenchon se sort aussi fort de cette séquence, c'est parce que, en effet, les filles gagnent cette bataille du récit, et c'est aussi parce que le PS est totalement illisible ces dernières semaines. Il y a ce communiqué qui a été comme une rupture et qui condamne les ambiguïtés sur l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Et derrière, ces fusions à peine une semaine ou deux après ce communiqué. Donc la position du PS est illisible. Et d'ailleurs, quand on voit là ces derniers jours des cadres du Parti Socialiste, ils sont désorientés, écartelés, sonnés. Et ils savent que là, sur ce coup, ces municipales, ils ont perdu la bataille.
Mais alors, est-ce qu'ils sont illisibles, effectivement, quand vous dites, ou est-ce que simplement c'est une mauvaise lecture aussi du du pays en imaginant que tout le monde, au fond, se ralliait à la figure de Mélenchon, ou est-ce que dans une élection municipale, précisément, on oublie cette figure-là et c'est pour ça aussi que ça a donné ce genre de résultat-là? En quoi il s'est trompé en nationalisant, au fond, à outrance aussi? Est-ce que le PS s'est pas trompé dans sa stratégie, Sophie de Ravinel?
Je pense que beaucoup d'électeurs ont cherché chez Jean-Luc Mélenchon cette stabilité dont nous parlait notre auditeur parisien tout à l'heure, par rapport justement à des errances idéologiques. Alors, le terme est un peu fort, hein, mais à des hésitations idéologiques qui se poursuivent courant élection du secrétaire national du PS après l'une après l'autre. Il y a toujours cette même hésitation entre des lignes d'alliance avec un centre-gauche ou des lignes de radicalisation, et qui ont essayé d'être contenues dans des alliances ensemble de socialistes, d'écologistes, de communistes et d'insoumis, mais ça n'a pas suffi, et je pense que le terrain parle.
On a Alain, pardon, on n'a pas le temps de vous prendre parce qu'il nous reste moins d'une minute, mais Alain, qui voulait répondre à Jean-Baptiste tout à l'heure, dit non mais c'est qui voulait pas voter
Grégoire.
À Paris, exactement, Emmanuel Grégoire, dit non mais c'est pas la faute du PS parce que chacun a sa part de responsabilité, et là pour le coup, pour le vote, c'est votre part de responsabilité, c'est ce que dit Alain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on verra et on lira comment les votes se reportent ou pas. La dernière question que j'ai pour vous, justement sur Paris, est de savoir si ce seul vote-là de Paris, c'est-à-dire que si la gauche perd Paris parce que les voix se sont éparpillées, est-ce que c'est tellement haut et tellement grand Paris que ce sera un casus belli pour la présidentielle suivante, entre un vrai casus belli entre le PS et la France insoumise?
Oui, en tout cas, ça colorera toute la lecture du scrutin. C'est la capitale, on n'imaginait pas forcément une alternance, et si Paris bascule, et si la droite l'emporte, effectivement, ça donnera une coloration à tout ce scrutin, et en plus de la manière dont ce sera passé avec la gauche, entre les différentes familles de gauche, ça relancera le débat au lendemain des élections municipales au sein du PS, qui s'annonce très vif.
Et ça tue l'idée d'une candidature du PS facile, en tout cas. Hein. C'est-à-dire que là, ils sont censés passer par une primaire. Ça paraît compliqué qu'un socialiste, s'il perd Paris, puisse porter les couleurs de l'ensemble de la gauche.
Ça dit les enjeux de cette élection parisienne, mais aussi les autres, bien sûr. Merci beaucoup, les amis. À très bientôt.